Vous écoutez, on lit pour vous.
La STM s'attaque aux publicités pétrolières. Un texte d'Henri Ouellette Vézina, paru le 30 septembre 2024 dans La Presse. Fini les publicités associées au sable bitumineux, au pétrole et autres polluants dans le métro et les autobus de Montréal. La Société de transport de Montréal, STM, a décidé de s'attaquer aux annonces qui versent dans l'éco-blanchiment, a appris La Presse. Ce qu'il faut savoir. La Société de transport de Montréal, STM, dit vouloir mettre fin aux publicités associées au pétrole dans le métro et les autobus. À Toronto, la Société de transport local s'est lancée dans le même genre de démarche. Plusieurs organisations écologistes demandent depuis un moment à la STM d'interdire les publicités liées aux énergies fossiles. On n'aime pas ça, des publicités de pétrolières. On n'en veut pas. Et moi, personnellement, ça me rend malade. Lance sans détour le président du CA du transporteur montréalais, Eric Allen Caldwell, en entrevue. Transesco, la filiale commerciale de l'entreprise qui gère, entre autres, l'affiche publicitaire dans le métro et sur les autobus, affirme s'être dotée, au cours des derniers mois, d'une série de mesures pour mieux encadrer l'affichage publicitaire dans le réseau de transport collectif. Ces mesures visent plus précisément les publicités qui transmettent des informations fausses ou trompeuses, donnant l'impression qu'un produit est plus éco-responsable qu'il ne l'est réellement. Nous souhaitons contribuer au financement du transport collectif de manière responsable, d'où l'importance d'établir des balises claires contre les effets pervers de pratiques d'éco-blanchiment en publicité, explique le directeur général adjoint de Transesco, Charles A. Gratton. À compter du 30 septembre 2024, toute publicité devra être exempte de messages qui discréditeraient la mission de la STM ou qui auraient un caractère dévalorisant quant au transport en commun. En principe, cela inclut aussi les publicités de voitures, mais le cadre légal demeure très restrictif à ce propos, précise la société. Transesco a mis en place un mécanisme de collecte et traitement des plaintes par lequel un citoyen peut demander qu'une publicité soit retirée. Ses employés ont aussi été formés pour prendre des décisions plus éclairées. En cas de refus d'une demande, la décision rendue sera justifiée selon la jurisprudence en matière de publicité et des lois en vigueur, affirme M. Gratton. Un élan canadien? La décision de la STM survient alors qu'en Ontario, la Toronto Transit Commission, TTC, a approuvé, fin septembre 2024, une motion de Diane Sachs, une conseillère municipale, qui faisait valoir que les publicités dans le métro ou les autobus ne devraient pas dénaturer le véritable sens des déclarations faites par des professionnels ou des autorités scientifiques. En d'autres termes, la Société de transport torontoise interdit toute déclaration publicitaire disant vouloir protéger ou restaurer l'environnement ou atténuer les effets environnementaux des changements climatiques, mais qui n'est pas fondée sur une justification adéquate conformément à une méthodologie internationalement reconnue. Selon la motion de Mme Sachs, les changements climatiques constituent une menace sans précédent pour les habitants de Toronto et du monde entier, avec des conséquences considérables, en particulier pour les plus vulnérables. Cela est non seulement important pour rapprocher notre ville de nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi pour que ces entreprises restent honnêtes dans la manière dont elles s'engagent auprès du public. S'est ensuite réjouie Madame Sachs sur le réseau social X. Une partie de la solution. Dès l'an dernier, alors qu'elle était pressée d'adopter une pareille mesure par des organisations écologistes comme Greenpeace, Équiterre et l'Association québécoise des médecins pour l'environnement, AQME, la STM songeait à interdire l'affichage relié à l'industrie des énergies fossiles dans le métro et les autobus. On y a beaucoup pensé, et il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans le fait d'associer l'industrie pétrolière au transport collectif. C'est au contraire la solution pour s'en affranchir, soulève M. Caldwell. Ce dernier ne craint pas pour autant de se distancer de certains fournisseurs publicitaires malgré cette transition. Au contraire, je pense qu'on peut créer une image de marque avec le métro et le transport collectif. Nos autobus et notre métro servent à afficher nos valeurs. Et ce n'est certainement pas de faire l'apologie de l'industrie pétrolière. Bixi, aussi concerné. Ce dossier n'est pas sans rappeler qu'en août 2023, l'entreprise de vélopartage Bixi Montréal avait fait retirer une publicité liée à l'industrie des sables bitumineux. Il s'agissait d'affiches de l'Alliance Nouvelle Voie, un lobby des principaux acteurs de l'industrie pétrolière canadienne. Les publicités du groupe, dont les 6 sociétés produisent environ 95 % du pétrole canadien, issu des sables bitumineux, faisaient notamment valoir que l'exploitation des sables bitumineux serait carboneutre d'ici 2050. Or, selon les groupes écologistes, cette prémisse s'appuie sur des technologies de capture et de stockage du carbone qui se sont, jusqu'à maintenant, révélées inefficaces et coûteuses. C'était « La STM s'attaque aux publicités pétrolières ». Un texte d'Henri Ouellette-Vézina paru le 30 septembre 2024 dans La Presse.
La méthode Daguerre récompensée, un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 16 octobre 2024 dans La Presse. Fadi Daguerre est reconnu pour avoir implanté une méthode d'approche innovante dans la gestion des relations entre les forces policières et les membres des communautés au sein de la ville de Longueuil et du service de police de la ville de Montréal, SPVM, où il est chef depuis 2022. Il est reconnu au point où la méthode Daguerre est même devenue une référence dans la formation de la maîtrise en administration des affaires pour gestionnaire de McGill HEC Montréal. S'il est plutôt rare qu'un chef de police soit cité en exemple dans des cours de gestion au niveau de la maîtrise pour gestionnaire ou EMBA, j'ai été encore plus surpris lorsque j'ai appris que le chef du service de police de la ville de Montréal allait recevoir le titre honorifique de diplômé émérite lors du prochain gala Luminescence organisé par HEC Montréal et son association de diplômés. Cette distinction est remise chaque année pour souligner le parcours exceptionnel d'un diplômé de HEC Montréal et pour reconnaître sa contribution à la société et l'exemplarité de son engagement. Parce qu'avant de devenir un policier, puis un officier de haut rang et finalement le grand chef de police, Fadi Daguerre était un étudiant en sciences de la gestion de l'UQAM, tout en étant aide-gérant d'un magasin Greisch et Skaff du centre-ville. Fadi Daguerre se souvient, un jour un policier qui faisait sa ronde est entré dans le magasin. On a commencé à jaser et il m'a proposé de faire une patrouille avec lui en me disant que le SPVM était à la recherche de candidats issus des minorités visibles. J'ai fait la patrouille et j'ai eu la piqûre instantanément. Il fera son cours de technique policière en accéléré et son stage à l'École nationale de police pour devenir patrouilleur durant 8 ans, avant d'être promu sergent et plus tard commandant du poste 30 dans le quartier Saint-Michel. Là, j'étais rendu à faire plus de gestion. J'avais un budget, une flotte de véhicules, des bilans et des plans d'action à rédiger, des humains à gérer. C'est là que j'ai décidé d'aller faire mon EMBA à McGill HEC pour aller chercher des outils pour pouvoir être plus imputable, m'explique le chef du SPVM. L'approche humaine. C'est durant son mandat de commandant du poste 30 que Fadi Daguerre a développé son approche humaine axée sur le développement d'une meilleure connaissance du milieu afin de pouvoir mieux y intervenir. Méthode qu'il a peaufinée durant les 6 années où il a été directeur du service de police de Longueuil de 2016 à 2022. Longueuil a été un laboratoire formidable. C'est encore à l'échelle humaine, avec 1 000 policiers, et c'est là que j'ai pu beaucoup apprendre. On a mis sur pied le projet Immersion en formant chaque année sur une base volontaire 30 policiers qui allaient dans les communautés culturelles, dans les centres de victimes de violences conjugales, dans les centres pour itinérants, les écoles pour enfants autistes, pour aller comprendre les réalités et les particularités de chacune des clientèles, résume le policier gestionnaire. Le chef Daguerre a reproduit le projet Immersion au SPVM en formant cette fois 350 recrues par année qui vont passer 6 semaines à vivre différentes réalités de la vie urbaine montréalaise. Je l'ai fait moi aussi. J'ai passé 1 semaine dans les centres pour itinérants. J'y ai même dormi. On ne voit plus les problèmes du même œil quand on comprend les particularités de chacun, insiste-t-il. Chaque année, Fadi Daguerre rencontre les membres de la nouvelle cohorte de l'EMBA McGill HEC Montréal lors de leur retraite d'une semaine au début de leur parcours et il leur lance un message simple. Je leur explique que pour être le leader d'une organisation, il faut gérer de façon authentique. Et je leur donne 5 mots. Courage, patience, confiance, résilience et pardon. Le pardon, je l'ai appris de Robert Dutton, l'ex-PDG de Rona, en 2010, durant mon EMBA. Depuis ce jour, je dors beaucoup mieux depuis que j'ai appris à pardonner, indique Fadi Daguerre. Selon le diplômé émérite 2024, l'approche humaine en gestion ne se limite pas aux seules organisations comme le SPVM avec ses 4800 policiers et ses 2000 civils. Elle s'applique aussi très bien aux entreprises qui doivent produire des résultats financiers et subir de la pression. Parce qu'il y a moyen de faire des profits sans presser le citron, alors que les travailleurs d'aujourd'hui veulent qu'on soit à leur écoute, qu'on leur accorde de la considération. On ne peut pas gérer, avec la seule productivité comme prémisse absolue, l'humain doit être recadré au centre de l'équation, dans tous les champs d'activité, estime avec raison Fadi Daguerre. C'était « La méthode Daguerre récompensée », un texte de Jean-Philippe Descaries, paru le 16 octobre 2024 dans la presse.
Les photos retrouvées du docteur Urtubise. un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir. Quelle troupe de cirque était débarquée dans les rues de Montréal en cet été 1902, lorsqu'un jeune étudiant en médecine de 22 ans, Léopold Urtubise, un passionné d'art, cadre la foule de curieux qui s'agglutine boulevard Saint-Laurent pour voir passer ce défilé bruyant et hors du commun que l'on devine là, au loin, à l'horizon de la rue, au-delà de la barrière formée par une suite de têtes? Ce fils de cultivateur, qu'est Léopold Urtubise, a exposé à la lumière plus de 300 plaques de verre photosensibles. Cet ensemble important aurait pu être détruit mille fois. Il fut retrouvé, contre toute attente, en 2019, dans un coin oublié de la vieille demeure familiale de Pierre que le médecin occupa jusqu'à sa mort en 1955. Quelques-unes de ces images se trouvent au cœur d'une exposition de cette maison. Une version augmentée de l'exposition est promise pour bientôt, non sans raison d'ailleurs, si on en juge par la qualité des photographies que Le Devoir a pu examiner et manipuler de près. Que voit-on sur les photographies laissées par Urtubise? Une table de dissection retient tout de suite l'attention. Des étudiants de médecine, pressés autour d'un cadavre, se délectent à l'évidence de la provocation que constitue la production d'une photo macabre. Voici aussi des confrères du jeune médecin photographe. Voilà une jeune femme morte, comme si elle s'était assoupie dans son lit. On trouve aussi, à travers ces monuments de verre, des scènes de la vie à la campagne comme à la ville, en un temps appelé en Europe la Belle Époque. Né en 1880, Léopold Urtubise vit dans la quiétude relative d'une vie confortable promise par la demi-campagne dans ce qui n'est pas encore le Westmount peuplé de luxueuses propriétés. Que sait-on de ce médecin? Peu de choses. Les murs de sa chambre, qu'il photographie, laisse en tout cas deviner une vive passion pour la photographie. Il possède quantité de tirages, montés sur des cartons forts, selon l'usage de l'époque. Pendant quelques années, la photographie va le passionner. Puis, tout semble s'arrêter. Le médecin a vécu un temps en Californie avant de rentrer au pays. N'aurait-il pratiqué la photographie qu'entre 1901 et 1908, comme on pourrait le croire en observant ce qui a été retrouvé? À l'heure de la vapeur, un homme tel Urtubise ne peut qu'être sensible, comme toute son époque, aux avancées de la modernité. Les plaques photosensibles qu'il utilise sont à l'époque jugées révolutionnaires. Elles sont fabriquées aux États-Unis par les frères Stanley, deux passionnés de progrès technique. Promis à un bel avenir, les frères Stanley vont néanmoins vendre leur procédé à George Eastman, le fondateur de Kodak. Signe des temps, ce qui intéresse désormais les Stanley est le développement de l'automobile à vapeur. Cette effervescence technique fait paraître l'histoire comme un long progrès sans fin. Qu'un médecin de Montréal s'offre, dans ce cadre, un appareil photo d'excellente qualité n'a rien d'étonnant. Entre ses mains, le docteur Urtubise tient un délicat assemblage de bois d'acajou qui, une fois déplié, soutenu par un mince squelette d'acier, dévoile un soufflet sur lequel est fixée une focale Bausch & Lomb fabriquée à New York. L'appareil est bien peu commode, mais la magie de la photographie s'est tout de même opérée pour qui sait y faire. Armé de quelques notions de chimie, le docteur Urtubise apprend à ruser avec la lumière pour mieux la fixer. Pour compenser les handicaps de son appareil, Urtubise utilise un trépied en bois et surtout, il calcule des temps de pose prolongés. Il en résulte des scènes parfois un peu évanescentes, par exemple, lorsque le jeune médecin photographie en intérieur un vieillard malade et immobile auprès duquel se dessinent les ombres de ceux et celles qui se pressent à son chevet. Les mouvements trop rapides des uns et des autres ont à peine été saisis par la pellicule, laissant sur elle une simple traînée. Il faudrait passer plus de temps à scruter la vie qui jaillit de chacune de ces photographies. À l'avant-plan de son cliché, lors de l'avenue d'un cirque, chacun peut observer une jeune fille dont le sommet du chapeau de paille est enserré d'un long ruban qui retient des fleurs. La petite tient, de sa main gauche, la menotte d'un petit garçon. Il est coiffé d'un chapeau mou. Devant eux, deux autres enfants paraissent jouer à même le sol, tout juste derrière une femme au large chapeau fleuri. Toute la scène est surtout peuplée d'hommes. Ils portent des canotiers, des chapeaux melons, des casquettes d'ouvriers, des feutres déformés. C'est tout un monde de chapeaux et de chevaux qu'Urtubise nous donne à voir de dos en appuyant ce jour-là sur le déclencheur de son appareil tout neuf, réglé sur une vitesse d'obturation rapide d'un centième de seconde afin que tout se fige pour l'éternité. Le docteur Urtubise avait noté à la plume sur les chemises de papier qui enserrent ses précieux et fragiles négatifs des indications sur les personnes, les lieux, les dates. Cela rend l'ensemble d'autant plus facile à appréhender. Numérisées, en partie nettoyées de leurs scories, les images laissées par Urtubise méritent d'être découvertes. L'exposition qui les donne à voir pour la première fois sera, si elle est augmentée comme elle promet de l'être sous peu, une sorte de marchepied commode pour nous hisser jusqu'à la hauteur d'un passé montréalais dont les images demeurent limitées. En attendant, pour voir un premier état de ces photographies imprimées en grand format et encadrées, le public doit se rendre à la maison Urtubise, chemin de la Côte-Saint-Antoine, à Westmount. À compter de 1739, six générations de la famille Urtubise vécurent dans cette maison ancestrale, jusqu'à ce que Léopold Urtubise, notre médecin photographe, le dernier des propriétaires occupants, décède en 1955. Durant ces années-là, faut-il noter que la maison échappa de peu à la démolition? C'était Les photos retrouvées du docteur Urtubise, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 23 octobre 2024 dans Le Devoir.
Le Conseil tribal Nushanult déclare l'état d'urgence à cause de la crise des drogues. Un texte de Melinda Trochu, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Colombie-Britannique. Sur l'île de Vancouver, le Conseil tribal Nushanult a déclaré l'état d'urgence jeudi en raison de la crise des drogues qui continue de dévaster ces communautés. Récemment, plusieurs décès ont ébranlé des Premières Nations. Le Conseil tribal Nushanult demande au gouvernement provincial et fédéral ainsi qu'aux autorités sanitaires de mettre en place des stratégies pour des mesures rapides et significatives. Cet organisme à but non lucratif représente 14 Premières Nations Nushanult, comptant environ 10 000 membres. C'est dans une salle remplie d'émotions, de pleurs et d'embrassades que plusieurs représentants Nushanult ont pris la parole à Port-Alberni. Citation « Nous perdons trop de gens, surtout des jeunes », fin de citation, a souligné Judith Sayers, présidente du Conseil tribal Nushanult. Des photos de personnes disparues étaient visibles dans des cadres, sur des T-shirts et sur des affiches. Judith Sayers considère que « ce qui est fait ne suffit pas », et ce malgré la déclaration d'état d'urgence sanitaire par la Colombie-Britannique en avril 2016. Judith Sayers demande des centres de réhabilitation et de désintoxication dans les communautés pour répondre aux besoins de leur peuple, précisant qu'une rencontre a eu lieu avec plusieurs agences lundi en ce sens. Wamis Kenwatz, chef de la Première Nation Tsechat, a dit avec beaucoup d'émotion dans la voix que toute leur communauté souffre du traumatisme intergénérationnel. Il a également énuméré les noms de 11 familles dans le deuil. Le chef des Tsechat encourage les électeurs, allochtones comme autochtones, à demander aux candidats en quoi consiste leur projet pour mettre fin à cette crise. De son côté, Nasatluk, John Rampanen, chef élu des Haoussat, une première nation touchée par de récents décès, a rappelé qu'entre 2017 et 2021, l'espérance de vie des Autochtones de la Colombie-Britannique a chuté de 6 ans. Cela prend trop de temps. Nasatluk, John Rampanen, a expliqué qu'un centre de bien-être devrait ouvrir au cours des prochains jours sur le territoire des Haoussat. Citation : Nous avons demandé et recherché du financement auprès des gouvernements fédéral et provincial pour mettre en place des éléments opérationnels. Mais il a été très difficile d'obtenir ces fonds. Nous avons donc été très créatifs quant à la façon dont nous allons pouvoir lancer cela nous-mêmes en y ajoutant également un élément de guérison basé sur le territoire. Fin de citation. Pour l'instant, 2 centres de désintoxication existent à Victoria et Nanaimo, ont précisé les représentants autochtones. Cela prend trop de temps pour en avoir d'autres sur leur territoire, a ajouté Nasatluk John Rampanen. Les Haoussat cherchent donc à faire preuve de créativité et d'innovation pour pouvoir offrir des centres de désintoxication et de stabilisation directement dans la communauté. Citation : Si vous voulez aller en désintoxication et que vous répondez aux critères, il faut être presque comme un gagnant du loto pour pouvoir y entrer. Fin de citation, regrette Les Doiron, vice-président du conseil tribal, qui a lui-même perdu son neveu. Citation : Le transport est aussi un problème majeur, en particulier pour nos communautés côtières, pour que nos membres puissent obtenir le traitement dont ils ont besoin ou le soutien culturellement approprié dont ils ont besoin. Fin de citation, a ajouté Wamis Ken Watts. Judith Sayers a précisé que la demande de financement faite auprès des gouvernements concerne chaque Première Nation ainsi que le Conseil tribal. Le premier ministre David Eby a déclaré que la province assurera, citation, le soutien dont ils ont besoin en matière de conseils et de moyens supplémentaires de prestations de soins dans leur communauté pour les personnes en difficulté. Fin de citation. C'était « Le conseil tribal Nushanult déclare l'état d'urgence à cause de la crise des drogues ». Un texte de Melinda Trochu, paru le 19 septembre 2024 sur Ici Colombie-Britannique.